avec Mgr Jacques Perrier.
Bonjour. Alors, dans les deux chroniques précédentes, j'ai évoqué la grotte de Lourdes au Vatican, et puis j'ai évoqué les papes qui étaient venus, pour un certain nombre, de toute façon, qui s'étaient beaucoup intéressés à Lourdes, disons les papes jusqu'à Jean-Paul Ier compris. Et donc, maintenant, les trois dernières chroniques seront consacrées au pèlerinage proprement pontificaux, disons, celui de Jean-Paul II en 83, de Jean-Paul II en 2004, de Benoît XVI en 2008. Alors, 1983, le pape aurait dû venir en 1981 pour le congrès eucharistique international, mais il y a eu l'attentat du 13 mai, donc impossible de venir. Il s'était fait représenter par le cardinal Gantin. Il vient donc 2 ans plus tard et il choisira à nouveau en 2004 la date du 15 août. C'est une manière d'honorer la France parce que le 15 août, c'est normalement la fête au point de vue national. La fête nationale laïque, c'est le 14 juillet, mais la fête nationale catholique, si j'ose dire, c'est le 15 août. Voilà. Et pas simplement parce que c'était l'anniversaire de la naissance de Napoléon. Bon. Voilà, je crois que ça a été fixé comme ça à un moment. L'empereur était tout content, il était né le 15 août, ou il a été baptisé le 15 août. Bon, peu importe. Donc, ce pèlerinage, alors très, très rapide, quoi, environ presque 24 heures, mais avec, alors c'était un pape très vigoureux, enfin, ressorti de la maladie, et donc l'activité débordante, les horaires toujours un petit peu dépassés. Je passe sur le détail du déroulement. Peu importe, c'est pas le sujet pour cette chronique. Donc prenons deux moments forts, entre autres. Il y a eu une rencontre avec les jeunes qui a été très importante aussi, organisée par le père André Cab, qui était responsable de la pastorale des jeunes à ce moment-là. Mais bon, deux moments très forts, je pense à la méditation à la fin de la procession au flambeau le 14 au soir, et puis la messe évidemment du 15 août. Alors, à la fin de la procession. Et alors, je me rappelle très bien, j'étais pas en charge d'ici, j'étais pas là. Je venais d'être nommé curé de la cathédrale Notre-Dame de Paris, qui était encore une paroisse. Pour ça, je dis que j'étais le curé. J'étais l'archiprêtre et le recteur en même temps, mais j'aimais bien dire que j'étais le curé de Notre-Dame de Paris. Et donc, je m'étais dit, on va projeter la veillée à l'extérieur, sur grand écran. C'était assez nouveau encore à l'époque d'avoir des écrans pour voir, surtout d'autant plus qu'au mois d'août, quand le début de la procession, il fait encore relativement clair, peu importe. Donc moi j'ai entendu cette prise de parole, mais c'est une prise de parole extrêmement forte, je l'ai entendu dans ce climat-là. Et j'ai été un peu, comme sans doute tout le monde, saisi par la force de ce témoignage. En particulier, je me rappelais très bien les premières phrases avec la voix et l'accent inimitable de Jean-Paul II. Et puis ensuite, quand la prise de parole avait pris une autre tournure. Alors au début, il disait, c'était le tout début, « Dans cette nuit paisible, nous veillons. » Nous veillons dans l'attente de la célébration de la gloire de Marie. Nous prions, non plus chacun dans le secret, mais comme un immense peuple en marche à la suite de Jésus-Christ ressuscité. Nous éclairant les uns les autres, nous entraînant les uns les autres, nous appuyant sur la foi au Christ Jésus, sur ses paroles qui sont lumière dans nos cœurs. Jésus nous dit, « Tenez vos lampes allumées, la lampe de la foi, la lampe de la prière. Que nos prières s'unissent pour monter vers Dieu comme la flamme de nos cierges, pour lui offrir avec Marie une fervente action de grâce et aussi pour élever ensemble une immense supplication. » Et alors, bien aimé, j'ai repris très souvent son expression pour la procession du soir, « Nous éclairant les uns les autres ». Effectivement, le cierge, il n'est pas fait pour tellement vous éclairer vous-même, mais ça éclaire votre visage que voient les autres. Donc, « Nous éclairant les uns les autres ». Il était venu à Lourdes d'autres fois, il connaissait bien, donc certainement, il se rappelait sans doute cette procession au flambeau. Chacun porte ici des intentions personnelles pour son propre salut, pour sa famille, pour sa communauté, pour son pays. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Ce soir, nous mettons ensemble tous ces vœux pour les confier à notre Père du ciel par Marie. Et nous élargissons ces intentions au monde entier et à toute l'Église en cherchant ce qui correspond à la volonté de Dieu. Oui, pour le monde entier, qu'ils aient une place dans notre prière, ces hommes et ces femmes qui, en quelques lieux de l'univers, souffrent de la famine ou d'autres fléaux. Nous, chrétiens, nous prenons spécialement à cœur dans notre prière les besoins spirituels de l'Église universelle. Et puis, il rappelle que les apôtres n'ont pas reçu la promesse du bonheur, mais au contraire, celle de la persécution. Heureux serez-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous. À maintes reprises, le Christ a parlé des persécutions à ses disciples. Le Christ a donc préparé ses disciples aux persécutions. Et de ce fait, ils ont été poursuivis par elles depuis qu'ils ont commencé à accomplir la mission qui leur avait été confiée. Aujourd'hui, alors c'est là le tournant, aujourd'hui, jour de mon pèlerinage à Lourdes, je voudrais embrasser par la pensée et avec le cœur de l'Église tous ceux qui subissent des persécutions à notre époque. Je voudrais les embrasser tous à travers le cœur de l'Église, avec le cœur maternel de la Mère de Dieu, que l'Église vénère comme sa mère, comme reine des martyrs. Les persécutions pour la foi sont parfois semblables à celles que le martyrologe de l'Église a déjà écrites dans les siècles passés. Elles prennent diverses formes de discrimination des croyants et de toute la communauté de l'Église. Ces formes de discrimination sont parfois appliquées en même temps qui est reconnu le droit à la liberté religieuse, à la liberté de conscience, et cela aussi bien dans la législation des divers États que dans les documents de caractère international. On peut peut-être faire quelques applications des situations présentes et proches de nous. Et alors, c'est là le tournant. Faut-il préciser ? Je me rappelle encore l'exemple. Faut-il préciser ? Et alors, on va préciser, il y a aujourd'hui des centaines et des centaines de milliers de témoins de la foi, très souvent ignorés ou oubliés de l'opinion publique. Ils ne sont souvent connus que de Dieu seul. Ils supportent des privations quotidiennes dans les régions les plus diverses de chaque continent. Il s'agit de croyants contraints de se réunir clandestinement parce que leur communauté religieuse n'est pas autorisée. Il s'agit d'évêques, de prêtres, de religieux auxquels il est interdit d'exercer le saint ministère dans des églises ou dans des réunions publiques. Il s'agit de religieuses dispersées qui ne peuvent mener leur vie consacrée. Il s'agit de jeunes gens généreux empêchés d'entrer dans un séminaire ou dans un lieu de formation religieuse. Il s'agit de jeunes filles auxquelles on ne donne pas la possibilité de se consacrer dans une vie commune, vouée à la prière et à la charité envers les frères. Il s'agit de parents qui se voient refuser la possibilité d'assurer à leurs enfants une éducation inspirée par leur foi. Il s'agit d'hommes et de femmes, travailleurs manuels, intellectuels ou exerçant d'autres professions, qui, pour le simple fait de professer leur foi, affrontent le risque de se voir privés d'un avenir intéressant pour leur carrière ou leurs études. Ces témoignages s'ajoutent aux situations graves et douloureuses des prisonniers, des internés, des exilés, non seulement chez les fidèles catholiques et les autres chrétiens, mais aussi chez d'autres croyants. Ils constituent comme une louange qui s'élève continuellement vers Dieu, du sanctuaire de leur conscience, comme une offrande spirituelle, certainement agréée par Dieu. Ô Mère du Christ, toi qui te tiens au pied de la croix de ton Fils, sois proche de tous ceux qui, dans le monde d'aujourd'hui, subissent des persécutions, que ta présence maternelle les aide à supporter les souffrances et à remporter la victoire par la croix. Voilà, aucun État n'est nommé, mais beaucoup se sont reconnus. Et cette prise de parole qu'une personne n'avait lue avant, qu'il n'avait soumise à personne, a fait quelques remous, comme on dit, dans les chancelleries. Donc ça, c'était le 14 au soir. Et puis le 15, la messe était célébrée là où avait été prévue d'ailleurs sa venue 2 ans avant et qui avait servi pour le congrès eucharistique. Donc vous savez, il y a eu pendant des années dans la prairie comme ça des circulations circulaires, des demi-cercles. Ben oui, ça datait de cette époque-là quand l'autel était à peu près là où il y a maintenant une grande tente. Un signe grandiose apparut dans le ciel, une femme ayant le soleil pour manteau. Nous sommes venus aujourd'hui en pèlerinage vers ce signe. C'est la solennité de l'Assomption au ciel. Voici que le signe atteint sa plénitude. Une femme a pour manteau le soleil de l'inscrutable divinité, le soleil de l'impénétrable Trinité. Pleine de grâce, elle est pleine du Père et du Fils et de l'Esprit Saint lorsqu'ils se donnent à elle comme un seul Dieu, le Dieu de la création et de la révélation, le Dieu de l'alliance et de la rédemption, le Dieu du commencement et de la fin, l'alpha et l'oméga, le Dieu vérité, le Dieu amour, le Dieu grâce, le Dieu sainteté. Une femme ayant le soleil pour manteau. Nous faisons aujourd'hui le pèlerinage à ce signe. C'est le signe de l'Assomption au ciel qui s'accomplit au-dessus de la terre et en même temps s'élève à partir de la terre, de cette terre dans laquelle s'est greffé le mystère de l'Immaculée Conception. Aujourd'hui se rencontrent ces deux mystères, l'Assomption au ciel et l'Immaculée Conception. Aujourd'hui se révèle leur complémentarité. Aujourd'hui, pour la fête de l'Assomption au ciel, nous venons en pèlerinage à Lourdes, où Marie dit à Bernadette « Je suis l'Immaculée Conception ». Voilà, eh bien, abandonnons ce pèlerinage du pape Jean-Paul II à Lourdes au 15 août 1983, pour le retrouver demain, eh bien, 21 ans plus tard, au terme de son pontificat et presque de sa vie, on y viendra à nouveau pour un 15 août en 2004.